Chapitre 17. Le sommeil de la mort. 23e dimanche après la Pentecôte. L'enfant n'est pas morte, elle dort. Matthieu, chapitre 9, verset 24. L'année liturgique touche à sa fin. Le choix de la péricope évangélique nous indique que nous approchons des derniers temps, ou du moins l'interprétation qu'on en donnait à la suite de saint Jérôme. La fille de Jaïr, disait-il, est l'allégorie de la nation juive et l'hémorroïse représente la gentilité. Le Seigneur a été mis en retard par la guérison de la malade. Pendant ce temps, la fillette mourait, mais il lui a rendu la vie. Ainsi, dans les desseins providentiels, Israël semble actuellement délaissé, tandis que les païens reçoivent l'Évangile. Son tour viendra néanmoins, avant que le monde ne finisse. Le peuple juif se sera converti. Saint Paul n'a pas voulu nous laisser ignorer ce mystère. L'endurcissement partiel d'Israël durera jusqu'à ce que la masse des païens soit entrée dans l'Église. Ensuite, le peuple juif sera sauvé. Romains, chapitre 11, verset 25. La liturgie de ce dimanche nous fait anticiper la réalisation des vues admirables de la miséricorde divine. D'ici là, que sera pour chacun de nous le départ de cette terre? À cette question, notre Seigneur a répondu en rappelant à la vie une enfant qui venait de mourir. Méditons son enseignement. Une fois de plus, la concision que le premier évangéliste apporte dans ses récits est heureusement complétée par saint Marc et saint Luc. Marc, verset 22, Luc, et chapitre 5, Luc, chapitre 8, verset 41. D'après eux, quand le chef de la synagogue se présente à Jésus, son enfant vit encore, ce qui rend sa demande plus vraisemblable. Il tombe aux pieds du Sauveur et le supplie. « Ma petite fille est à toute extrémité. Viens lui imposer les mains afin qu'elle soit sauvée, qu'elle vive. » Comment le maître résisterait-il à cette requête? Une fille de 12 ans. Il n'est pas dans l'ordre qu'elle meure. Le pauvre père est au désespoir. Sa petite fille, cet être exquis de pureté et de charme, c'est tout pour un père. « Rabbi, viens vite, vite, avant qu'il ne soit trop tard !» Saint Marc écrit. Et Jésus s'en alla avec lui, et une foule nombreuse le suivit, le pressant de toutes parts. C'est alors que se produit l'intervention de l'hémorroïse avec les réflexions qu'elle provoque chez les disciples. À peine la malade était-elle guérie que les voisins de Jaïr surviennent pour lui dire « N'importe ne plus le maître, la fille est morte. » Aussitôt, notre miséricordieux Jésus se tourne vers le chef de la synagogue. « Ne crains pas, crois seulement. » Le Sauveur arrive enfin à la maison mortuaire où se déroulent déjà les rites coutumiers. Les joueurs de flûte ont commencé de faire retentir leurs airs funèbres et les pleureuses attitrées se lamentent à grands cris sur la mort de l'enfant. La pitié qui se lisait dans les yeux de Jésus fait place à un regard d'autorité. Pourquoi cette rumeur et ces lamentations? L'enfant n'est pas morte, elle dort. La réaction du public est instantanée. Tous se moquaient de lui. Ils savaient bien, eux, qu'elle était morte. Et quand on est mort, il n'y a plus d'espoir. Jésus met tout ce monde à la porte. Accompagné du père et de la mère, de leurs proches ainsi que de trois grands apôtres, il pénètre dans la chambre où la petite morte repose sur un lit de parade. Ses parents, les yeux fixes, chargés de douleur et d'une espérance qu'ils n'osent pas définir, contiennent leur respiration. Jésus prend la main de l'enfant. « Talita kumi, petite, debout !» Les mots mêmes que chaque matin sa mère lui adressait à l'air du réveil. Et sur le champ, la petite fille se leva et se mit à marcher. Jésus, qui au milieu de l'émoi général gardait sa présence d'esprit, prescrivit alors qu'on lui donnât à manger. Il est difficile de rester insensible au ton si naturel de ce récit, où l'on ne peut surprendre aucune recherche de l'effet à produire. Tout se passe simplement. C'est chose si simple que de mourir. Il est aussi simple de ressusciter. La mort ne finit rien. Elle est un sommeil dont Jésus nous éveillera. L'Évangile contient trois récits de résurrection. Ceux qui furent l'objet de ces miracles n'ont rien gagné d'autre que d'avoir à continuer leur épreuve terrestre, et ils durent descendre une seconde fois dans les ténèbres de la mort. En les ramenant à la vie, le Sauveur a pensé à ceux qui les pleuraient. Dans les trois cas, il obéit à un mouvement spontané de compassion devant le chagrin de la veuve de Naïm, de Jaïr et des sœurs de Lazare. Quel gré ne lui serons-nous pas d'avoir compati aux douleurs que nous cause le départ prématuré de ceux que nous aimons? N'en croyez pas le vieil Arkel. Dieu a pitié du cœur des hommes. Jésus aurait pu se borner à consoler les malheureux parents en leur disant « Vous reverrez plus tard les êtres aimés qui vous quittent ». Mais il n'ignore pas les tentations que doivent affronter les hommes qui souffrent. « Seigneur, ne parlez-vous pas ainsi pour anesthésier notre peine? Les reverrons-nous vraiment? Est-ce que l'on vit encore lorsque le cœur a cessé de battre ?» Le Maître a tenu à consolider leur espoir et les nôtres. Marthe de Béthanie, comme nous, se raccrochait à sa foi. « Je sais, disait-elle, que mon frère ressuscitera au dernier jour. » Jésus veut que son espérance soit une certitude. Son frère n'a pas cessé de vivre, bien qu'il soit enfermé dans le tombeau, les mains et les pieds liés de bandelettes. Lazare sort et le mort sortit. Notez qu'aucun des trois ressuscités de l'Évangile, non plus que Sabita ni Eutyque, respectivement rappelés à la vie par saint Pierre et par saint Paul, ne furent ressuscités au sens propre du mot, comme nous le serons un jour. Ils ne sont pas entrés dans une vie nouvelle, dotée d'un corps transformé. Seraient-ils revenus parmi nous s'ils avaient contemplé Dieu face à face? Ils ont seulement repris leur vie antérieure. Ils n'avaient pas cessé de vivre. À la nouvelle du décès de Lazare, le Sauveur avait dit « Lazare, notre ami, dort, mais j'irai le réveiller. » Lazare dormait comme la fille de Jaïr était seulement endormie. Il n'y a pas à se méprendre sur le sens de son affirmation. Ceux qui se moquent de lui en seront pour leur confusion. Un seul mot de Jésus et la preuve est faite qu'ils vivent encore. La mort ne supprime pas la vie, elle est un sommeil. Les gens pourront aussi se moquer de nous qui ne voient dans le cimetière qu'un ossuaire. Pour nous, le cimetière a conservé son sens originel. Il est le dortoir où nos défunts reposent dans le Christ en attendant la bienheureuse résurrection. Elle n'est pas morte, elle dort. La liturgie a traduit la parole du Christ dans cette formule de la préface des messes pour les défunts. Pour ceux qui croient en vous, Seigneur, la vie change, elle n'est pas enlevée. Pour les commodités du langage, nous distinguons entre la vie présente et la vie future. En réalité, Dieu ne nous donnera pas une autre vie après que la première aura disparu. Il nous a donné la vie, une seule vie, qui doit s'épanouir dans l'éternité. Dieu n'a pas fait la mort, mais en se révoltant contre son auteur, l'homme s'est dépouillé de ses prérogatives et s'est condamné à subir le sort des créatures faite uniquement pour la terre. Malgré cela, il ne se sent pas fait pour mourir. Non seulement l'obscur instinct de conservation qu'il partage avec les animaux le pousse comme eux à fuir la mort, mais une loi plus profonde de sa nature l'empêche de considérer la mort comme le terme de ses efforts et le couronnement de sa vie. Nous ne sommes pas faits pour mourir. La mort est une cassure, lente ou brusque, qui nous frappe alors que nous sommes encore capables d'aimer, de produire, de vivre. Quoique notre être extérieur aille vers sa ruine, écrit saint Paul, notre être intérieur se rénove de jour en jour. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. Les éléments matériels de notre corps sont sans cesse en train de disparaître et de renaître. Cependant, sous ce tourbillon de la matière, notre vraie personnalité reste la même, partiellement affranchie de l'espace et du temps. Nous vivons dans un monde spirituel composé de souvenirs, d'admiration, d'enthousiasme, de repentir, de chagrin, et qui est irréductible à notre organisme corporel. Nous avons connu des moments où nous survolions la terre, moments inoubliables tels que la joie de savoir et de comprendre, la force d'aimer jusqu'au renoncement, l'heure des grands sacrifices. Mais ne suffit-il pas de prononcer le nom béni de Dieu pour nous convaincre que dans l'immensité de l'univers, nous comptons à ses yeux? Dieu nous deviendrait inconcevable si nous ayons permis de le connaître et de l'aimer au moment où nos bras vont enfin l'étreindre, il se dérobait pour nous laisser à l'amertume de nous être attachés à une chimère. L'heure de notre départ est dans le plan divin, celle où, répondant à notre confiance et notre docilité, celui que nous avons appelé notre Père nous prouvera l'immensité de son amour. Dirons-nous que la mort n'existe pas pour le chrétien? Hélas, il est une mort terrible que nous devons redouter. Elle est l'œuvre du péché qui ne porte pas en vain le nom de mortel, car il nous détache de Dieu et nous isole dans la création, sans appui et sans espoir. C'est la deuxième mort dont parle saint Jean, qui est la part des lâches, des infidèles, des meurtriers, des impudiques, des idolâtres et de tous les menteurs. Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Le chrétien qui a rejeté son Dieu définitivement a perdu pour jamais la vie divine. L'enfer, disait Monseigneur Duss, est la perpétuité du péché. Dieu est la vie de l'âme. En perdant Dieu, l'âme perd sa vie. Nous triomphons de la mort à condition de triompher du péché. S'il ne se repent pas, le chrétien qui rejette Dieu est déjà un cadavre. Mais le chrétien fidèle à la parole du Christ ne verra jamais la mort. Jean, chapitre 8, verset 31. Quand il achève son temps d'épreuve, sa vie change. Elle ne peut pas lui être enlevée, car le germe de vie divine qu'il a reçu au baptême et que l'Eucharistie a fait croître dans son âme ne peut pas être touché par la mort physique. Le chrétien uni à Dieu entre dans la pleine vie. Pascal écrivait à sa sœur après la mort de leur père. Nous ne l'avons pas perdu au moment de sa mort. Nous l'avons perdu, pour ainsi dire, dès qu'il entra dans l'Église par le baptême. Dès lors, sa vie était vouée à Dieu. Il a donc fait ce qu'il avait voué. Il a accompli la seule chose pour laquelle il était créé. Et comptant également Bossuet, ô moment heureux où nous sortirons des ombres et des énigmes pour voir la vérité manifestée. Là est le terme du voyage. Là finissent les gémissements. Là s'achève le travail de la foi quand elle va, pour ainsi dire, enfanter la claire vue. Heureux moment qui ne te désire pas n'est pas chrétien. Ainsi, mes frères, la mort sera pour nous le passage à la vie définitive. Un passage, une Pâque. Cependant, lorsque ce passage s'ouvrira devant nous, n'aurons-nous pas à réprimer un frisson? Les derniers détachements seront peut-être coûteux. Comment ne pas appréhender un acte aussi grave et dont nous n'avons aucune expérience? Tout cela est normal, car la mort reste le châtiment du péché. Il convient donc qu'elle comporte pour nous un élément douloureux. Mais de quel mérite cette douleur ne sera-t-elle pas chargée? Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui, au son de ma voix, m'ouvrira, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. C'est bien l'heure de notre mort qu'il est question, car la voix continue. Le victorieux, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône. Le Seigneur surviendra sans doute à l'improviste, comme un voleur qui ne se fait pas annoncer. Mais au lieu d'enfoncer la porte, il frappe, et avec la délicatesse d'un ami, il nous prie de lui ouvrir. Il nous accorde le mérite de lui offrir ce qui pourrait prendre de plein droit. De nos derniers instants, nous pourrons faire un sacrifice, une offrande sainte, sacrifice d'humilité. Seigneur, vous êtes le maître de nos jours. Vous avez choisi cette heure. J'adore vos desseins. Sacrifice de repentir. Agréez ma souffrance en réparation de mes fautes. Je renonce aux biens qui m'ont parfois détourné de vous. Sacrifice d'obéissance. Je l'ai marchandé tant de fois. Aujourd'hui, Seigneur, je ne discute plus. Que votre volonté s'accomplisse. C'est fini. Désormais, je ne vous désobéirai plus. La mort, écrivait Bossuet, ne sera pas la fin de la vie. Elle le sera de mon péché. Ô mort, je t'aime par cet endroit-là. Sacrifice d'amour, enfin. Je ne vous ai pas assez aimé. Que mon dernier soupir soit un soupir d'amour, l'obol de la veuve qui donna tout ce qu'elle avait. Je ne possède plus que mon pauvre cœur, prenez-le. Mais pourquoi nous exposer aux aléas des derniers jours? Mortifions dès maintenant ce que la mort détruira pour toujours, notre orgueil, notre avarice, notre sensualité. L'offrande qui précédera celle du grand sommeil, présentons-la chaque soir avant de nous endormir, en regardant Jésus mourant sur la croix. Ayons toujours en mémoire la passion de Jésus-Christ, disait saint Cyprien. Les souffrances de la mort n'épouvantent point les héritiers du crucifié. Ce regard sur la croix nous rappellera en effet que l'agonie et la mort de tous les chrétiens, notre agonie et notre mort, dont nous ne savons ce qu'elles seront, ont déjà été offertes à Dieu par notre Sauveur. Dans aucun des mystères de sa vie, Jésus-Christ n'était seul. Tous les membres du corps dont il est la tête étaient avec lui. Notre vieil homme, notre homme pécheur, était donc attaché avec lui sur la croix. Cet enseignement de saint Augustin a été remarquablement développé par Bossuet, qui ne craint pas d'écrire que le sacrifice de Jésus se perpétue, non seulement dans le mystère de la divine Eucharistie, mais encore dans la mort de tous les vrais fidèles. Je ne parviens pas à comprendre pourquoi alors que les catholiques de notre temps sont submergés sous un flot de tracts religieux d'une valeur très inégale, il ne s'est pas trouvé d'éditeur pour répandre à profusion les réflexions sur l'agonie de Jésus-Christ. Cet opuscule, un des chefs-d'œuvre du grand évêque, est ignoré d'à peu près tous les fidèles. Qu'on fasse fi d'un tel trésor est déplorable. J'ai connu des malades absolument transformés par cette lecture. Notre mort, qui ne devait être que la peine du péché, explique Bossuet, fut changée en celle de Jésus-Christ, en nature de sacrifice. Notre agonie a été distinctement présente aux yeux de son cœur, ainsi que le genre de maladie dont nous devrons mourir. Non seulement il a sanctifié en lui nos tristesses et nos douleurs, mais il a suppléé à ce qui pourra manquer alors à notre soumission et à notre pénitence pour en faire un hommage à la souveraineté de son Père. Il nous a élevés à l'état de victime avec lui sur la croix. Il a uni notre mort à la sienne, en sorte que la mort des vrais chrétiens, consacrés dans le baptême pour être des victimes, est devenue dans celle de Jésus-Christ un sacrifice parfait. En conséquence, sans attendre l'heure de mon départ, où je puis être dans l'incapacité d'expliciter ma pensée, si aujourd'hui, si chaque soir, j'unis consciemment mon agonie et ma mort à celle de notre unique et bienheureux médiateur, lorsque je rendrai le dernier soupir, je serai à la fois victime et oblation avec Jésus, offrant avec lui à son Père ma mort avec la sienne. Or, cette offrande de ma mort, n'en serons-nous pas émus jusqu'aux larmes, a déjà été agréée par le Père. Lorsque le Sauveur proféra ce grand cri, tout est consommé. Il ne me restera plus alors qu'à incliner la tête, comme notre divin modèle, et à redire après lui, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Dieu a permis que l'instant même du prépas ne fût point terrible. La sensibilité engourdie du moribond ne perçoit plus la douleur. Sa conscience s'obscurcit comme pour lui voiler les êtres et les choses dont il se sépare. Nulle inquiétude ne se lit sur ses traits. L'un de ses proches a commencé la prière des agonisants. « Pars de ce monde, âme chrétienne, au nom du Père qui t'a créé, au nom du Fils qui a souffert pour toi, au nom du Saint-Esprit qui est descendu sur toi. » Entend-il seulement le refrain des litanies ? Enveloppé dans un linceul de silence, son âme reçoit les ultimes grâces que Dieu a attachées au sommeil de la mort. La très douce Vierge Marie est exacte à l'heure où tant de fois elle fut priée d'assister celui qui part. Le chrétien n'est pas mort, on devra lui fermer les yeux. Il s'est endormi dans la vie. Rempli du Saint-Esprit et les regards fixés au ciel, Étienne aperçut la gloire de Dieu et Jésus se tenant à la droite de Dieu. Et il s'endormit dans le Seigneur. Actes chapitre 7, verset 55.